Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Elles ont osé quand tout semblait perdu. Esther et Judith, deux femmes, deux combats, une foi plus forte que la peur. Bienvenue dans ce Vivante Église. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de deux grandes figures féminines de la Bible. Deux femmes de caractère et de foi, Esther et Judith. Deux récits forts, marqués par le danger, par la peur, souvent l'urgence, mais aussi par une grande confiance en Dieu. Avec elles, nous découvrons que la foi peut devenir audace, discernement et courage du cœur. Pour nous accompagner dans ce Vivante Église aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir au micro et pour intervenant frère Baptiste Sauvage, religieux de l'Ordre du Carmel, docteur en théologie à l'Université de Fribourg et spécialiste de l'Ancien Testament. Et ça tombe bien. Bonjour frère Baptiste
Bonjour.
Sauvage, ravi de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous de ce Vivante Église. Frère Baptiste, pour nos auditeurs, certains connaissent bien cette page biblique où apparaît Esther et d'autres ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez, en introduction, nous rappeler un peu le contexte de l'histoire d'Esther ? Et merci.
Oui, alors le contexte est celui de l'exil. L'exil à Babylone est plus un peu plus, d'une manière un peu plus tardive, sous le contexte des Perses, des rois Perses, Assuérus, dont on n'est pas sûr de l'existence historique, mais qui justement va être le symbole de ce roi perse puissant au centre de cette cour de Suse où il habite. Et justement, donc, c'est dans ce contexte de l'exil, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas sur sa terre. Si on refait l'histoire, Israël est sorti d'Égypte, est entré dans la terre de la promesse, des rois ont été donnés, et en raison de leur infidélité, en ont été chassés de cette terre. Et les voilà à Babylone. Et lorsque le royaume de Babylone tombe, c'est l'Empire perse qui prend sa place. Donc voilà, on y arrive. Un peu le cadre dans lequel se déroule cette histoire. Et au début, c'est une histoire presque anecdotique. C'est-à-dire que la reine Vashti refuse de se montrer au roi et au grand de sa cour lorsqu'il organise un grand festin. Et parce que la reine s'est opposée au roi, ses conseillers conseillent au roi de la déchoir. Ouais. Et il faudra trouver une autre femme pour la remplacer. Et c'est donc Esther, la juive, qui va être choisie en raison de sa beauté. Et son identité reste cachée. Mais c'est autour justement de cette identité et de ce choix que tout le reste de l'histoire va se dérouler. C'est justement parce que son peuple juif va être menacé d'être mis à mort, tout entier, parce que Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, refuse de se prosterner devant Aman, un des ministres, en quelque sorte, d'Assuérus. Et Aman, pour se venger, fait signer au roi un décret qui demande la mise à mort de tous les Juifs, donc une vengeance qui est plutôt disproportionnée. Et Esther, la juive, justement, qui avait caché son identité, va se découvrir comme ayant cette mission de se présenter devant le roi afin d'obtenir le salut de son peuple. Voilà un peu le contexte lointain, c'est-à-dire celui de l'exil, est proche de ce récit d'Esther.
Alors, quelque part, il y a un peu d'héroïsme pour cette jeune femme, Esther, de se présenter avec audace, au fond courage, devant ce roi. Qu'est-ce qui l'aide un peu à dépasser sa peur ?
Oui, déjà, on pourrait se dire pourquoi de l'héroïsme ? Parce que, à la limite, c'est la reine, donc elle pourrait en parler tout simplement au roi. Sauf que, comme le rappelle le livre d'Esther, Nul ne peut s'approcher du roi, donc de cette cour intérieure où il se tient, sans avoir été appelé par lui. Mais là, justement, il y a urgence en quelque sorte. C'est-à-dire que ça fait des semaines qu'Esther n'a pas été appelée par le roi. Et il faut ne pas tarder à...
Il y a urgence.
À le voir, effectivement, pour obtenir ce salut de son peuple. Et là aussi, je crois qu'on a à travers le personnage d'Esther un cheminement qui est finalement très humain et très proche, parce qu'elle va hésiter. Elle va douter parce que aller voir le roi sans avoir été appelé par lui, c'est mettre sa vie en danger, puisque à moins que le roi ne fasse grâce à celui qui aura osé se présenter devant sa face, eh bien, il sera mis à mort. Vous voyez, donc elle va mettre sa vie en danger, et donc Esther va hésiter quand Mardochée l'invitera à faire ce geste. Et Mardochée lui dira, mais attention, peut-être que c'est pour un jour comme celui-là que tu as été choisie comme reine. Donc, on a vraiment cette idée en filigrane que l'élection d'Esther est en vue d'une mission. Elle a été choisie, mais pas pour sa promotion personnelle, mais pour intervenir en faveur de son peuple.
Donc, pour sauver son peuple.
Voilà.
Alors, avant d'intervenir, avant d'agir, Esther va faire appel aussi aux jeûnes et puis à la prière.
Oui, hein, voilà. Exactement.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une préparation intérieure, une préparation d'intercession déjà devant son Dieu pour Esther,
oui,
avant de se présenter devant son roi ?
Oui, oui, exactement. Oui. Et ce sont des, on pourrait dire, des pratiques cultuelles presque déjà. Presque même liturgique. Et en filigrane de ce livre, il y a une sorte de mise en scène à travers un récit de ce qu'est l'acte liturgique par excellence. C'est-à-dire que dans la version hébraïque du livre d'Esther, il n'est jamais fait mention de Dieu. Et quand vous avez un livre dans les Écritures où il n'est pas fait mention de Dieu, c'est qu'il faut le trouver, en quelque sorte. C'est la même chose dans le Cantique des Cantiques. Il n'est pas nommé, mais on sent bien qu'il se cache derrière le bien-aimé, comme la tradition l'a toujours.
Voilà.
Et c'est vrai que derrière le roi Assuérus, même on pourrait dire à travers ses défauts qui sont mis en scène et dont on se moque un peu dans le livre, mais quand même il y a une image de Dieu et finalement même se présenter devant la face de Dieu et prendre un risque pour cela, mettre sa vie en danger. Est-ce que ce n'est pas ce qu'Israël est invité à faire d'un point de vue culturel et liturgique, c'est-à-dire vivre devant la face du Seigneur ? Vous avez le fameux rite qu'on célèbre chaque année dans l'Israël ancien, mais qui est toujours vécu, mais puisqu'il n'y a plus de temple aujourd'hui, pas d'une manière liturgique comme stipulé dans le Lévitique, mais c'est le rite du Yom Kippour. Et c'est le rite où le grand prêtre va entrer dans le Saint des Saints, donc c'est-à-dire dans ce lieu où Dieu réside, après justement toute une préparation, et justement va entrer dans ce lieu afin d'obtenir de Dieu l'expiation du péché d'Israël sur toute une année. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre derrière cette audace d'Esther, c'est-à-dire qu'elle pose un acte qui met sa vie en danger, qui la met en présence de la plus haute autorité, et qui justement va lui permettre d'obtenir d'elle, de cette autorité, le salut d'un peuple.
On voit bien cette jeune femme qui au départ était discrète, a été choisie, sélectionnée, voilà, par sa beauté et pour sa beauté. Et ce personnage révèle aussi l'importance d'Esther dans son intervention, sa prière, son jeûne et son audace. Elle ne craint pas, elle va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Peut-être jusqu'à risquer sa vie.
Oui.
Que peut-elle dire pour aujourd'hui ceux qui sont en responsabilité et lourdes responsabilités ?
Oui, déjà, peut-être d'une manière générale, elle nous montre qu'en réalité, on est tous en quelque sorte en responsabilité dans la mesure où par le baptême, on a été choisi comme roi. Et donc, il y a une élection qui nous dispose à une mission. Et finalement, ce geste que pose Esther de mettre sa vie en danger pour se présenter devant le roi, c'est celui que toute personne est appelée à faire dans sa vie. Se tenir en présence de Dieu et donc se donner, perdre sa vie en quelque sorte, pour se tenir en présence de Dieu au nom de tous, c'est ce qu'Esther a fait, mais finalement, c'est la révélation de ce que notre consécration baptismale nous invite à faire nous aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, on a cette responsabilité de poser un acte décisif, au moins par la prière. Vous voyez, quand on prie, on entre dans ce lieu intérieur, dans ce palais royal où Dieu se tient. Et justement, entrer dans ce lieu-là, c'est passer par des épreuves aussi. Ceux qui ont une vie de prière profonde savent que parfois l'épreuve est dure. Et donc, tenir dans cette épreuve, dans cette prière de l'intercession, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous et qu'Esther nous invite à assumer.
Alors, qu'est-ce que vous aimez, vous, tout particulièrement, vous qui êtes spécialiste aussi de la Bible, Ancien, Nouveau Testament, cette figure en particulier de cette reine Esther, qu'est-ce que vous aimez particulièrement cette femme?
Oui, il me semble en tout cas qu'elle est... Il y a un fameux jeu de mots très probablement voulu par les auteurs bibliques entre Esther, alors fondée sur la racine satar, souvent en hébreu c'est istir, donc c'est un verbe qui parle de la cachette. Donc c'est la S-T-R, c'est vraiment l'idée d'être caché. Donc il y a à la fois un jeu de mots sur cette présence cachée d'une femme qui va intercéder pour le salut de son peuple. Donc, c'est-à-dire que quand tout est désespéré, quand le décret homicide est proclamé et que l'espoir semble avoir... toute forme d'espoir semble avoir disparu, eh bien, il y a une espérance cachée, en quelque sorte. Donc, il y a cette espérance cachée d'Esther, présence cachée de Dieu. Il y a un jeu sur la cachette qui est omniprésent dans le livre. Mais aussi, ça, on pourrait dire que c'est un jeu qui implique la langue hébraïque, mais très probablement dans l'esprit des rédacteurs, il y a aussi un jeu sur Ishtar, qui était une déesse qui est l'équivalent de Vénus dans le monde gréco-romain et qui est justement cette étoile du matin. Et justement, là aussi, on pourrait dire dans la nuit du décret homicide, eh bien, il y a une étoile qui continue à briller. C'est pas pour rien d'ailleurs que Stella Maris est le nom que nous donnons à celle qui accomplit cette figure d'Esther, la Vierge Marie, parce que justement, on pressent et on sent que dans les moments les plus sombres de notre histoire personnelle ou collective, il y a toujours une étoile qui brille dans un ciel obscur et ce flambeau, il est porté par cette femme, cette petite femme qui est Esther. Il sera porté ensuite par la Vierge Marie, la seule à continuer à espérer, en quelque sorte aussi, au pied de la croix. Hein. Et donc, je verrais bien Esther comme cette figure de l'espérance contre toute espérance. Et surtout dans les troubles où aucune solution humaine ne semble émerger. Donc Esther nous rappelle ça et justement, c'est pas, on pourrait dire, une sorte d'actualisation poétique mais éloignée du texte de dire que ce qui se cache derrière Peggy et cette petite fille Espérance est déjà en germe dans le livre d'Esther. C'est-à-dire que il n'y aura jamais une période de l'histoire humaine où une petite fille Espérance ne se lèvera pas pour faire basculer le cours de l'histoire. C'est ça que je retiens.
Alors, on est presque vous brûlez, mais on approche peut-être d'une actualité collective et mondiale aujourd'hui, où il y a, dans une actualité qui brûle, entre les guerres, les famines, les incertitudes, les peurs, il faut peut-être plusieurs reines Esther.
Il y a des monstres de tous les côtés, des Goliaths, des hommes augmentés, des Assuérus et des Amans. Vous voyez, donc, ils font beaucoup de bruit. Et ils semblent triompher. Ils ont le pouvoir politique,
ils sont à la gouvernance.
Hein. Voilà, c'est ça, ils sont comme Aman, ils peuvent tirer par leur manipulation les rênes du pouvoir.
Il y a le pouvoir, le plein pouvoir.
Assuérus d'ailleurs qui finalement est plus objet de manipulation. Donc d'un personnage caché. Donc le mal semble triompher et il fait beaucoup de bruit mais les Esther sont là. Et donc, c'est vers elle, finalement, que notre regard doit se porter. Peut-être d'ailleurs, certaines de nos éditrices sont ces Esther-là. Hein. On peut tous être cette Esther, c'est-à-dire cette espérance qui se lève, non sans difficulté. On l'a bien vu qu'Esther hésite quand même. Mettre sa vie en danger...
Elle est réfléchie.
Elle est réfléchie. Et d'ailleurs, elle est réfléchie aussi dans la, ensuite dans la mise en œuvre de son plan, dans l'exécution de son plan. On n'a pas le temps d'approfondir, hein, mais on va voir que ce n'est pas du premier coup qu'elle va révéler à Ahasuérus ses intentions. Elle va organiser un banquet, inviter Aman, puis un deuxième. Donc elle est réfléchie, elle n'agit pas sur un coup de tête.
Il y a une stratégie, il y a une préparation, il y a une sagesse hein, de
exactement.
La reine Esther.
Une vraie sagesse, avec peut-être même une ruse.
Le juste discernement.
Le hein? juste discernement, cette, et justement aussi avec cette intelligence des petits. C'est-à-dire que leur marge de manœuvre est faible, mais au sein de cette faible marge de manœuvre, ils savent se faufiler pour obtenir justement ce que leur espérance espère.
La reine Esther peut donner des leçons pour aujourd'hui. La reine Esther peut réveiller peut-être, est-ce que vous avez des vocations?
Oui.
Oser peut-être se risquer, oser prendre cette stature debout, mais avec la sagesse de la reine Esther, donc la prudence, la sagesse, mais la bonne stratégie.
Exactement.
Au fond, elle part au combat avec finesse, avec délicatesse, avec toute sa beauté. Mais elle est ajustée, elle a préparé le programme.
Oui. Et d'ailleurs, une des figures contemporaines qui s'est elle-même d'ailleurs consciemment identifiée à Esther, c'est Edith Stein. Philosophe, juif, converti, entré au Carmel, mettant sa vie en danger jusqu'à l'offrande totale, puisqu'elle a été donc martyrisée par les nazis dans le camp d'Auschwitz en raison de son appartenance au judaïsme et de sa foi chrétienne. Et en même temps, on voit bien que cette offrande qu'elle fait d'elle-même pour son peuple, le peuple d'Allemagne, le peuple juif, est porteur d'une bénédiction qui la dépasse complètement. Donc là aussi, on pourrait dire dans la nuit, la nuit du triomphe apparent du nazisme au XXe siècle, qui n'a duré finalement qu'un temps limité, une Esther s'est levée avec beaucoup d'autres, hein, mais au moins elle s'est levée et justement suscite à sa suite de nombreuses autres vocations, c'est le terme que vous avez employé, je pense que c'est vrai, vocation à la vie consacrée, vocation sacerdotale, il y a une dimension sacerdotale dans l'offrande qu'Esther fait d'elle-même, elle entre dans le Saint des Saints, et qu'est-ce que les prêtres font, si ce n'est de représenter le Christ grand prêtre mettant sa vie en jeu pour obtenir le salut de son peuple. Vous voyez, donc, et souvent d'ailleurs, même dans des vocations sacerdotales masculines, il y a l'offrande de femme. Donc, je pense que la méditation de ce livre, finalement, rappelle à l'Église cette fécondité d'une vocation quand elle est pleinement assumée, malgré le cheminement que cette... accueil peut supposer, c'est-à-dire le passage par l'angoisse aussi.
Alors, on s'arrête là. C'était cette première partie de Vivante Église. Merci. Et puis, j'espère que vous aurez donné le goût, frère Baptiste,
oui, là aussi,
à lire
et puis tellement...
relire. Il y aurait tellement à dire sur Esther, la reine Esther, mais c'était juste une petite lecture.
Exactement.
Voilà, pour donner le goût. Voilà, ouais. Et que, au moins, le goût qu'il y ait peut-être. On parlait de vocation à l'instant. Elle a répondu aussi à un appel. Elle a été choisie. Elle a dit oui. Elle a osé. Elle s'est risquée, elle a réfléchi, elle a pris le temps qu'il fallait pour partir quelque peu avec audace auprès de son roi et pour sauver son peuple, hein, son peuple. Alors que des vocations d'Esther se lèvent peut-être.
Exactement.
Maintenant, voilà. Donc n'hésitez pas, chères auditrices, à relire le livre d'Esther et puis beaucoup de livres aussi. Et puis peut-être à prier et puis pourquoi pas oser, tout comme Esther, vous lever. Vous restez avec nous, frère Baptiste, et je vous propose juste après cette plage musicale de nous retrouver dans ce Vivante Église avec, si vous le voulez bien, un autre portrait que j'aime bien aussi, que j'apprécie, Judith. À tout à l'heure.
Mais qu'un jour on sait vraiment? Ou est-ce qu'on fait semblant tout le temps? Où va le cœur quand il se perd dans les doutes et les hivers? Pourquoi les jours se ressemblent? Est-ce qu'on finit par voir ce qu'on a sans? Maman, dis-le moi. Au-delà de l'orage, il y a de l'amour, quand le ciel s'ouvre, tout redevient calme et tout va bien. Où va il vacille et se brise? Maman, dis-le-moi. Où va-t-il? Pourquoi le monde semble si grand quand on devient encore plus grand? Qu'avant que deviennent les rêves qui s'enfuient et les souvenirs qu'on oublie? Est-ce que j'aurai toujours des questions? Peut-être que j'en ferai des chansons.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église au micro pour intervenant, frère Baptiste, reste avec nous, frère Baptiste. Voilà, après avoir fait un tour très rapide, et relu un petit peu l'histoire de la reine Esther, je vous propose, frère Baptiste, de relire, et chers auditeurs, chères auditrices, relisez aussi l'histoire d'une autre femme, personnage biblique de l'Ancien Testament, Judith, voilà, une femme qui prie, audacieuse, intelligente, et qui va devenir aussi instrument, tout comme la reine Esther, un instrument de libération pour son peuple. Je vais vous demander très simplement, en introduction dans cette deuxième partie de Vivante Église, de resituer dans le contexte aussi historique, biblique, qui était Judith. Et merci.
Oui, alors Judith, un peu comme Esther, est située dans un contexte politique difficile. On pouvait avoir quelques questions sur l'identité historique d'Assuérus. Peut-être le roi Xerxès, Artaxerxès, sont des noms difficiles à prononcer.
Vous avez réussi.
Des noms perses, ouais, c'est
oui,
ça, ouais.
Bravo.
Avec cette racine Attar qui signifie justement la mise en ordre. C'était une divinité masdéenne. Voilà. Donc le roi puissant qui est celui qui ordonne en quelque sorte son empire. Mais Assuérus, bon, on imagine que c'est ça. Avec Judith, en quelque sorte, les flous sont encore plus clairs. Des flous qui sont clairs, c'est un peu un paradoxe, mais c'est voulu dans le livre, puisque, par exemple, si on prend seulement le premier verset du livre, il est question donc de la 12e année de Nabucodonosor, qui régna sur les Assyriens. Ce qui, en fait, à l'oreille de chaque auditeur de l'époque, est un non-sens historique, puisque Nabucodonosor est le roi des Babyloniens, et les Assyriens, ça fait longtemps qu'ils ont été défaits par les armées de Nabucodonosor. Et donc, très volontairement, et c'est évident, et celui qui écrit ça, l'auteur, le sait très bien, ces auteurs, quand ils les lisent ce livre, connaissent l'histoire quand même un minimum. Donc ils savent bien que justement, les repères historiques sont un peu brouillés, justement pour nous faire comprendre que, plus profondément qu'un événement de l'histoire factuelle, c'est une attitude spirituelle qui transcende l'histoire et qui parcourt l'histoire qui va nous être racontée dans ce livre de Judith. Et avec des noms aussi qui sont symboliques. Judith, c'est la juive c'est son nom. La ville dans laquelle elle habite, c'est Béthulie, qui signifie la Vierge. Et donc, une Vierge qui va être justement sauvée de l'invasion et qui fait le lien entre une femme et une ville. Donc, beaucoup d'éléments sont rassemblés dans ces récits, justement pour nous faire comprendre qu'il est question de quelque chose de plus profond que simplement une description factuelle d'événements historiques, mais plutôt d'attitudes spirituelles qui se renouvellent au cœur de l'histoire.
Que nous apprend Judith, Frère Baptiste,
et, ben on dirait,
et que nous enseigne-t-elle?
Je dirais bien volontiers
profondeur.
Quelque chose de semblable à Esther, en fait. Et les deux femmes sont très liées, un peu d'ailleurs comme les deux messies dans le livre de Samuel sont liées, parce que vous avez d'abord un premier qui s'appelle Saül. Vous voyez, c'est celui qui sera oint par Samuel, fils d'Anne. Voilà. Et donc, il va être le premier messie de la tribu de Benjamin. Et qui en particulier va mener une guerre contre Amalek. Et ensuite, vous avez un deuxième messie qui est David, de la tribu de Juda. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux femmes sont comme le correspondant féminin de ces messies. C'est-à-dire que Esther est de la tribu de Benjamin, comme Saül, et va remporter la victoire sur Aman, associé à Amalek. Aman qui était celui qui avait comploté contre le peuple juif. Et Judith, elle est racontée, son histoire est racontée dans un parallèle évident entre la lutte de David contre, avec la lutte de David contre Goliath. Donc Judith, elle est vraiment la nouvelle David. Si vous voulez, Esther, c'est celle qui poursuit l'œuvre de Saül et qui la porte à son accomplissement, le premier messie d'Israël dans le livre de Samuel. Et Judith, c'est celle qui poursuit l'œuvre de David dans sa victoire contre Goliath. Et tout ça pour dire que finalement, ces deux femmes sont comme, on pourrait dire, le pendant féminin, le complément. Vous voyez, on se souvient que Dieu a dit de cette femme qu'elle serait ce secours apporté à l'homme. Et pour que l'image de Dieu soit parfaitement reflétée, il faut qu'il y ait comme ces deux visages, en quelque sorte. Hein. Comme il y aura le visage du Christ et de Marie au pied de la croix, pour que l'œuvre de la rédemption soit accomplie. Eh bien, Judith est un petit peu celle qui va manifester les traits de David dans sa féminité. Voilà. Et donc, elle va lutter contre le nouveau Goliath, qui sera Holoferne, le capitaine des armées, qui essaiera de conquérir la ville de Béthulie, cette ville étant la dernière place forte. Après quoi, si victoire il y a, tout le territoire d'Israël sera conquis. Et donc, elle est cette dernière place de résistance, Béthulie, qui sera gardée par une femme de valeur qui s'appelle Judith.
Alors, vous insistez, et puis c'est l'objet aussi de ce Vivante Église aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard aussi que je vous ai demandé de prendre le micro pour revenir très vite hein, sur l'histoire d'Esther, de la reine Esther et de Judith aujourd'hui. Vous parlez bien aussi de la féminité. Ces deux femmes que nous redécouvrons aujourd'hui avec vous, que disent-elles profondément aux femmes d'aujourd'hui dans cette vocation parfois qui se perd? La femme peut perdre aujourd'hui un peu cette féminité qui est aussi dans cette féminité toute sa vocation, toute sa force et toute son intelligence.
Oui, c'est ça qui est très beau, c'est de voir à quel point Dieu valorise avec son génie propre certaines femmes et peut-être même là où on ne l'aurait pas attendu. Qui aurait attendu une Jeanne d'Arc, chef des armées, oui. Et ce qui ressort souvent de ces femmes-là, un peu d'ailleurs comme dans le projet de Genèse 2, c'est que vous avez affaire à des femmes fortes. On dit aussi de cette femme de Genèse 2 qu'elle est bâtie, c'est-à-dire qu'elle est comme une sorte de maison solide. Quand tout s'écroule, elle tient. Et puis ce secours qu'elle est, c'est un secours militaire. Donc elle va poser des gestes décisifs qui bouleversent le cours de l'histoire. Donc contrairement à l'image qu'on pourrait se... qu'on pourrait se faire de la femme... quelle qu'elle soit, la Bible nous présente des femmes fortes, solides, qui vont intervenir pour le salut d'un peuple. Et aussi, on l'a déjà évoqué avec Esther, mais c'est le cas aussi avec Judith, dotées d'une sagesse bien propre, bien spécifique, qui désarçonne même peut-être la forme d'intelligence que certains hommes peuvent avoir et qui justement leur donne d'agir d'une manière extrêmement efficace, profonde et décisive quand les repères ont été bouleversés. L'idée de la femme comme icône de la sagesse, c'est pas juste l'histoire d'Esther ou de Judith qui nous la montre, c'est finalement là aussi une constante des Écritures et qu'on pourrait vérifier dans plein d'autres cas. La femme sage qui agit avec intelligence et dont la sagesse, finalement, parfois désarçonne les logiques humaines pour être le reflet d'une sagesse divine beaucoup plus efficace, beaucoup plus profonde. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre de la sagesse, hein, qui agit avec force et douceur et qui, d'âge en âge, passe les générations pour se transmettre aux prophètes. Vous voyez, donc, c'est de cette sagesse-là dont les femmes bibliques sont les porteuses et les instruments.
Si on devait garder des trésors de toutes ces femmes, en particulier les trésors de Judith et puis de la reine Esther, hein, qu'est-ce qu'on peut, on peut garder pour cette vie d'aujourd'hui, ce monde d'aujourd'hui un peu dans la nuit du monde aujourd'hui, un monde quelque peu fragilisé, vulnérable, qui a perdu un petit peu la direction. On ne connaît plus la direction et on ne sait plus peut-être quel est le bon combat aujourd'hui à mener et à suivre.
Oui.
On a besoin d'éclaireuses peut-être, on a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent.
Et très précisément pour le livre de Judith en particulier, on sent bien que l'enjeu c'est profondément celui de la mise à l'épreuve. C'est-à-dire que la ville de Béthulie est encerclée par les armées, l'eau commence à se tarir, le peuple arrive vraiment à ses ultimes limites. Et ce que Judith va reprocher au chef de Béthulie, c'est justement de mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils disent à Dieu que si dans 4 jours il n'est pas intervenu, eh bien ils vont ouvrir en fait les portes de la ville aux armées. Et ce que Judith fait comprendre au peuple, c'est qu'en réalité, ce n'est pas au peuple et aux hommes de mettre Dieu à l'épreuve, mais plutôt de consentir à se laisser être éprouvé. Et l'épreuve dans le sens biblique, et c'est justement là aussi ce que cette femme porte et permet de comprendre, c'est que l'épreuve au sens biblique, c'est cette manière qu'a Dieu de révéler les profondeurs cachées du cœur. Et Judith, cette femme qui a été elle-même éprouvée par la mort de son mari, sait ce que signifie ce mot-là, et elle a été éprouvée, donc c'est un peu comme ce qu'on a dit d'Anne, c'est-à-dire qu'elle a épanché son âme, qui a épanché son âme devant Dieu. Eh bien, Judith, par la prière et le jeûne, a épanché son âme, elle aussi, devant Dieu. Et c'est parce que pendant des années et des années, elle a vécu cette attitude, qu'elle pourra être ajustée quand viendra l'heure de l'épreuve pour tout un peuple, et qu'elle pourra trouver, avec son intelligence, sa sagesse, sa finesse, sa séduction aussi, elle pourra trouver le moyen en quelque sorte, d'en faire sortir le peuple. Et je pense qu'elle est, ce modèle féminin de celle qui comprend ce que signifie le terme d'épreuve, parce qu'elle l'a vécu dans sa chair, et qui comprend aussi que, justement, l'épreuve peut avoir cette dimension positive de révéler les profondeurs cachées d'un cœur, et que c'est lorsque cette révélation se fait que Dieu peut intervenir. Donc, on peut dire que le fond d'incroyance qui habitait encore le cœur des habitants de Béthulie se révèle parce qu'ils veulent, mettre Dieu à l'épreuve et ne pas accueillir l'épreuve qui vient des événements de la Providence. Mais cette femme qui a été mise à l'épreuve, elle, sait comment Dieu agit et va pouvoir, par cette, on pourrait dire, cette sagesse-là, utiliser les bons moyens, et donc ce seront ceux qui nous seront racontés dans la suite de l'histoire.
On en revient, et on rejoint, elles sont très proches, hein, Esther et Judith, elles acceptent aussi de passer par le feu de l'épreuve.
Exactement.
Hein. Oui. Elles ne sont pas dans le forcing, le chantage.
Oui.
Elles sont dans l'intercession, dans l'offrande, dans le jeûne et la prière.
Oui, oui, oui. Et ce qui est très intéressant dans les deux cas, je trouve, c'est que et plus particulièrement dans celui de Judith, c'est que c'est par une épreuve familiale qu'elle a été comme éduquée. C'est-à-dire que c'est la mort de son mari qui la met en route. Et c'est à partir de cette mort de son mari qu'elle va vivre cette vie de jeûne, etc. Donc, ce qui signifie bien que une épreuve finalement qui est commune, c'est-à-dire qu'une femme perde son mari, c'est pas la première fois que ça arrive.
Je pense que vous avez des auditrices qui ont certainement fait l'expérience du veuvage et qui sont veuves aujourd'hui.
Et donc il y a cette, on pourrait dire cette expérience dramatique, mais on voit bien que justement ce qui est vécu d'un point de vue personnel va donner à Judith les clés pour décrypter l'enjeu véritable d'une guerre nationale, et même finalement même plus que nationale, là, c'est international, parce que Holofernes vient justement pour conquérir des territoires et les resoumettre au roi Nabucodonosor. Donc, mais c'est par son épreuve personnelle, familiale, qu'elle elle a les clés pour décoder l'épreuve nationale et presque ou presque cosmique.
Elle a les codes parce qu'elle est à l'écoute. Hein.
Voilà. Elle a compris que son cœur est éprouvé
parce
par
que
Dieu.
Vous parlez aussi de codes et de clés. Ouais. Elle a les clés pour comprendre les codes parce que c'est un cœur qui écoute.
Exactement.
C'est un cœur qui a accepté aussi de passer par l'épreuve et de traverser l'épreuve.
Traverser.
Qui est un dépouillement.
Et ce qui fait que justement après elle pourra traverser même au sens physique la frontière qui sépare son peuple des armées ennemies. C'est vraiment mise en scène d'une manière très claire dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a même un torrent qu'il s'agit de traverser. On repense à la traversée de la mer Rouge, etc. Donc, ça fourmille de symbolisme. On n'aura pas le temps de les creuser. Donc, chacun pourra les redécouvrir par leur propre lecture. Mais donc, parce qu'elle-même a traversé personnellement l'épreuve, elle pourra traverser la frontière des armées ennemies, remporter la victoire sur Holofernes. Là aussi, non pas d'un coup de tête, mais à travers un plan bien réfléchi. Sauver son peuple. Donc... là aussi, on a l'expérience même d'une femme qui, avec de petits moyens, mais parce qu'elle est accordée au Dieu des armées, va trouver la solution pour obtenir une bénédiction qui dépassera largement le périmètre de sa famille, en fait, qui viendra rejoindre non seulement sa ville de Bithulie, mais aussi tout le peuple d'Israël. C'est bien la dernière place forte.
Qu'est-ce qui rend ces deux femmes, au fond, héroïques et extraordinaires, permettez-moi, mais en relisant très vite, Judith et Esther, qu'est-ce qui les rend si extraordinaires?
Peut-être...
Elles font rêver, permettez-moi.
Oui, elles font rêver. Et en même temps, ce qui les rend extraordinaires, c'est qu'elles sont ordinaires. Parce que Esther se doutait pas qu'elle serait choisie. Elle s'est présentée au concours Miss Perse de l'époque et elle a été choisie, mais elle y allait juste parce que Mardoché l'a invitée. Enfin voilà, on sent que pareil pour Judith, et je dirais bien volontiers que ce qui, pour ces deux femmes, mais en fait on le vérifierait pour beaucoup d'autres femmes bibliques, ce qui va les rendre solides, c'est aussi qu'elles sont profondément enracinées dans l'histoire de leur peuple. On a dit donc d'Esther qu'elle est de cette lignée de Benjamin, illustrée par la présence de Saül, même s'il a été écarté de la royauté, mais quand même, c'est pas rien, d'appartir à une lignée qui a été marquée par la présence d'un Messie. Et puis, et Judith, associée à David, mais elle est aussi associée à la lignée de Siméon. Siméon, et ça lui sert à... Elle-même va le rappeler au Seigneur dans sa prière, ça lui sera rappelé aussi dans les chants de louange qui lui seront adressés. Et on pourrait dire que l'acte violent de Siméon, vous pourrez le relire, c'est au chapitre 34 de la Genèse, qui n'était pas forcément bien ajusté, elle va s'en ressaisir pour lui donner sa portée véritable. Parfois, effectivement, il faut agir avec force, mais dans des circonstances bien déterminées. Et donc, elle est enracinée dans l'histoire de sa lignée, de sa tribu. Finalement, elle prend le meilleur, là aussi, on l'avait dit, de Ruth comme Moabite, mais elle prend le meilleur de son héritage, de son patrimoine, de ce qui constitue son identité, sous le regard de Dieu, pour le faire fleurir et lui faire porter son fruit de salut. Donc c'est ça, moi, que je retiendrai de ces femmes, c'est que ce sont des femmes, peut-être avec une oreille attentive à la voix qui vient du ciel, mais aussi des racines bien... profondément ancrés dans leur terroir et leur histoire.
Merci infiniment, frère Baptiste Sauvage, pour ces deux belles personnes de l'Ancien Testament, féminines, voilà, deux femmes, c'était deux histoires, deux chemins. Esther nous montre le courage tout en restant dans une attitude quand même de discrétion, mais elle va jusqu'au bout, elle est audacieuse. Et puis, vous venez de relater un petit peu les grandes lignes. Et puis,
exactement.
Voilà, les grandes lignes, on le sait, Judith, avec cette force audacieuse, mais bien stratégique, bien pensée, de femmes intelligentes qui ont cette prudence, cette sagesse et puis ce discernement pour au fond venir au secours de leur peuple. Donc merci infiniment d'avoir un peu relu très vite ces deux histoires et je vous invite, chers auditeurs, peut-être à relire, voilà, et d'aller un petit peu plus loin. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.